France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Le Mexique, la musique et le monde, c'est le 8e épisode. L'écrivain français Paul Morand au pays des mariachis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Notre 8e chapitre aujourd'hui commence à New York avec une chanson mexicaine qui a été très célèbre aux États-Unis dès 1934, avant de devenir en 1959 le grand succès de Dinah Washington quand elle a remporté un Grammy Award. La chanson s'intitule en anglais « What a difference a day makes ». Il suffit d'un jour et tout est changé dans ma vie. C'est le jour où je suis avec toi.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue day. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes.
Qui pensait en 1934 qu'il s'agissait là d'une mélodie composée à New York par une dame venue un jour de Mexico et devenue célèbre du jour au lendemain, une dame appelée Maria Grever. La chanson mexicaine originale s'intitule « Cuando vuelva a tu lado ». Elle est interprétée ici par Elvira Ríos, la grande interprète de boléro latino-américain. « Cuando vuelva a tu lado, quand je serai de nouveau à tes côtés, ne refuse pas mes baisers. »
Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte. El beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté sola contigo, las cosas que te digo. No repitas jamás por compasión, une tu labio al mío y estréchame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón.
La voix profonde de la Mexicaine Elvira Ríos. Mais quel chemin a dû parcourir la compositrice Maria Grever pour arriver à ce succès? Elle est née au Mexique d'un père sévillan et d'une mère mexicaine. Jusqu'à l'âge de 6 ans, elle vit avec ses parents dans la capitale avant de partir à Séville. On la retrouve bien plus tard à Paris, où elle prend des leçons avec Claude Debussy et Franz Lehár. En 1900, elle revient à Mexico, où elle continue à étudier la musique. 7 ans plus tard, elle épouse l'Américain Leon Graver, qui est alors à la tête d'une grande compagnie pétrolière. En 1916, la révolution gronde, ils partent vivre à New York. Maria a 32 ans. C'est dans cette ville qu'elle a vécu toute sa vie. Elle y a composé des centaines de chansons, qu'elle a d'ailleurs eu bien du mal à faire éditer au début. Aux États-Unis, elle éprouvera constamment une grande nostalgie du Mexique où elle se rend peu fréquemment. Et c'est sans doute pourquoi toutes ses chansons composées à New York sont des chansons mexicaines. En 1926, elle entend un ténor mexicain qui chante alors entre l'Opéra de Chicago et le Metropolitan Opera de New York. Il s'appelle José Mojica. Elle est fascinée par sa beauté et par son timbre de voix et elle lui écrit une chanson, « Júrame, jure-moi ». Qu'il enregistre aussitôt. Elle l'intitule « Tango Bolero ». Avec son rythme de habanera, ce tango mexicain va la rendre célèbre dans le monde entier. Cet enregistrement est intéressant parce qu'il utilise une certaine forme de récitatif parlé qu'on entendra souvent par la suite, au milieu ou à la fin, des chansons sentimentales et des boléros.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué mirarme ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estoy contento, no quisiera que de nadie te acordara. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura. Así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Júrame que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame. pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso y dámelo como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti.
Jure-moi, jure-moi que tu m'aimeras toute la vie, bien évidemment. Ce tango habanera de Maria Grever, ici interprété par José Mojica, va influencer beaucoup le boléro mexicain. Et c'est devenu un des chevaux de bataille des grands ténors hispaniques d'Alfredo Kraus à Placido Domingo. Pendant ce temps, à Paris, le compositeur Manuel Ponce s'aperçoit que le Mexique y est très à la mode. Les intellectuels et les artistes qu'il fréquente se passionnent pour ce qu'a été la révolution mexicaine. Son ami l'écrivain Alfonso Reyes, ambassadeur à Paris, les a tous séduits. Et l'écrivain Robert Desnos lui consacre un long article dans le journal Paris Soir. Alfonso Reyes est nommé en 1927 ambassadeur en Argentine et Manuel Ponce perd là un soutien fidèle. De plus, il est très affecté par la mort de sa mère en février. Il se réfugie alors dans la composition et dans les récitals, dont celui qu'il donne à l'école normale avec le violoncelliste André Uvelin. En 1928, paraît le premier numéro de la Gazette musicale qu'il a fondée avec son ami cubain Mariano Brull, une publication en espagnol dont les bureaux lui ont été offerts par la maison Pleyel rue du Faubourg Saint-Honoré, grâce au musicologue Marc Pincherle. Et c'est un succès. La Gazette musicale a publié des critiques et des articles sur les compositeurs de l'époque comme Stravinsky, Berg, Schoenberg. Manuel Ponce peut être fier. D'autant plus qu'en 1928, son Estrellita est joué par Yasha Heifetz au Théâtre de l'Opéra. Et même si sa femme Clema lui manque, la vie lui sourit enfin dans ce cher Paris qu'il aime tant.
Thank you.
La gigue de la suite bitonale de Manuel Ponce par le pianiste mexicain Alberto Cruz Prieto. À New York, Edgar Varèse décide de dissoudre la Guilde internationale des compositeurs et il fonde avec Chavez et Henry Cowell l'association panaméricaine des compositeurs dont il est le directeur. Le 22 avril 1928, dans le cadre des concerts organisés par Aaron Copland, Carlos Chavez interprète sa sonate pour piano et une de ses trois sonatines. En août, il est de retour au Mexique et il fonde avec l'appui du syndicat des musiciens l'Orchestre symphonique de Mexico dont il est le chef, grâce notamment au soutien d'un mécène et l'appui d'hommes politiques influents. Cela a permis la création au théâtre Esperanza Iris en septembre de la première saison de ce nouvel orchestre symphonique qui allait devenir le plus important du Mexique. Au programme Iberia de Debussy, le premier concerto pour piano de Tchaïkovski et le Don Juan de Richard Strauss. Puis Chavez continue à composer son ballet Horse Power, les chevaux vapeur. Dans le deuxième mouvement, il décrit le contraste entre l'ambiance sensuelle et chaude de la zone tropicale latino-américaine et le monde industriel froid et mécanique des États-Unis. Les tropiques chantent ici au rythme des claves venues de Cuba et de la marimba, populaire depuis toujours chez les Indiens du Chiapas au sud du Mexique. El Tropico, les tropiques, extraits du ballet Horse Power, les chevaux vapeurs de Carlos Chavez, Eduardo Mata, à la tête de l'orchestre symphonique Simón Bolívar de Caracas. À son retour au Mexique, Carlos Chavez s'intéresse à la musique populaire et à l'évolution des orchestres de mariachis qu'on entend de plus en plus dans la capitale. D'ailleurs, à ce sujet, que sait-on vraiment de ces mariachis? D'où viennent-ils et pourquoi les appelle-t-on ainsi? Le musicologue Jesús Jáuregui, qui a écrit récemment un ouvrage qui fait référence a fait un voyage en 1975 pour retrouver les anciens mariachis de l'état du Nayarit sur la côte Pacifique, là où vivent notamment les Indiens Huicholes. Dans un village, il a rencontré un homme de 80 ans qui lui a raconté que quand il était très jeune, dans les foires, ce qu'il préférait, c'était les mariachis, qui chantaient, jouaient de la musique et dansaient sur des estrades. Alors qu'il converse avec lui, Jauregui est surpris de voir un petit orchestre de mariachis à l'ancienne qui arrive sur la place. Trois musiciens et trois instruments, violon, guitare et grande guitare basse. Ces musiciens ont joué et dansé pour lui sur une estrade comme le veut la tradition. Les mois passent et en 1984, il effectue une longue marche dans les montagnes qui longent la côte. Un vieux monsieur lui dit que s'il veut entendre des mariachis uniquement composés d'instruments à cordes, il doit aller durant la Semaine Sainte au village de Huaynamota, car c'est là que se réunissent les Indiens Huicholes qui viennent jouer de la musique en se mêlant aux habitants du village.
Llévale este papelito a la dueña de mi amor. Cantaba un jilguero solo en las cumbres de una parra. Y el gorrión le contestó, ¡ay, qué suerte tan chaparra!
Cuando te quiero te vas, cuando te aborrezco vienes. Dime por qué mal estás, ¿dónde más amores tienes? Cuando te quiero te vas, cuando te aborrezco vienes. Dime por qué no te estás, ¿dónde más amores tienes?
Cantaba un jilguero solo en las cumbres de una parra.
Le mariachi populaire de Jalisco. Ce mot étrange de mariachi apparaît dans plusieurs documents du XIXe siècle. On y parle par exemple de fandangos, de fêtes devant les églises animées par des orchestres de mariachis. En 1875, c'est un général en mission à Guadalajara qui décrit une sérénade animée par un orchestre de trois ou quatre musiciens qu'on appelle un mariage en français dans le texte. C'est la référence indirecte la plus ancienne à la possible origine française du terme « mariachi », un terme que les habitants auraient entendu prononcer au XIXe siècle par les soldats français de l'armée d'occupation quand ils jouaient dans les orchestres qu'on engageait à l'époque pour les noces ou pour les fêtes. Un juge fédéral, récemment nommé à la même époque dans le territoire de Tepic, nous donne une autre origine possible. Il décrit en détail une fête et les danses exécutées sur différentes estrades au son de la harpe, des violons et de petites guitares appelées vihuelas, de tambours et de cymbales. Ces estrades en bois creux, écrit-il, servent aux musiciens d'instruments de percussion. On les appelle mariachi ou mariache. C'est un mot de la langue caïta des Indiens Huicholes, un terme qui aurait désigné par la suite l'ensemble des musiciens et la musique qui jouaient. Comme ce zapateo d'une petenera d'origine andalouse, interprétée dans les années 1970 par un mariachi populaire.
Bonita.
un ensemble de musiciens et de danseurs dont on entendait le zapateo sur l'estrade, enregistré dans l'état de Guerrero, sur la côte pacifique, par l'équipe des disques Corazon, avec un S, infatigable préservateur du patrimoine musical mexicain. Un grand merci à Eduardo Llerenas, qui continue ce travail remarquable aujourd'hui encore au Mexique. En 1927, ce sont ces mariachis, composés surtout d'instruments à cordes et arrivés à la capitale Mexico au début du XXe siècle, que l'écrivain français Paul Morand entend lors de son voyage. Morand, lassé de son travail de diplomate à l'ambassade de Londres, s'offre cette année-là des vacances dans les Caraïbes. Le 10 novembre, il embarque pour Cuba, où il reste jusqu'au 24 décembre, date à laquelle il prend le steamer pour Veracruz. 3 jours de navigation, et il arrive, comme il l'écrit dans son livre « Hiver Caraïbe », dans cette Amérique mexicaine que le hasard d'une tempête ouvrit à Cortés il y a 4 siècles. Il y passe alors quelques semaines avant de visiter le Nouveau-Mexique, l'Arizona et la Californie aux États-Unis. 26 décembre 1927, c'est son journal de voyage. Depuis 2 jours, le bateau creuse le fond du golfe du Mexique. Au hublot, du bleu. Une forteresse et 3 cocotiers, c'est le premier des ports mexicains, Veracruz, qui fut occupé 2 fois par nous les Français au 19e siècle. En attendant l'heure où le Mexican Railway sonnera sa cloche pour m'emporter vers Mexico, je me promène sur le cours des cocotiers, el Paseo de los Cocoteros. J'arrive au bord de la mer, ma voiture court sur la plage.
Una morena me dijo que la llevara yo a ver a la reina de los cielos que la quería conocer. Y después de haberla visto que la volviera a traer. Mi morena, y vuelvo a decir morena, adiós y dame la mano por si no volviera a verte. No pienses que soy tirano, lo que tengo es mala suerte. Ahí verás con el verano, chulona, corresponderte. Dijo que la llevara yo a ver a la reina de los cielos que la quería conocer. Y después de haberla visto que la volviera a traer. Mi morena, y vuelvo a decir morena, adiós que me voy llorando la pena y desdicha mía. Pero me voy acordando que te de ver algún día, aunque sea de vez en cuando, matita de Rosalía.
Graciela, la chanteuse et harpiste noire de Veracruz avec le trio Silva.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Sur le quai de la gare, écrit Paul Morand, j'attends le moment d'escalader la montagne. De la terre chaude à la terre froide, de Veracruz à Orizaba et à Mexico. Grâce au chemin de fer anglais, c'est dans un confortable pullman que je commence l'ascension à travers l'un des plus beaux paysages au monde. Dans 12 heures, Mexico. D'abord, 2 heures d'un désert maritime, aux dunes sablonneuses piquées de palmiers nains, puis les montagnes à pic sur lesquelles se jette le train. Alors commence une végétation dévergondée. Les caféiers, les cannes à sucre, les bananiers. Et voici Orizaba, avec son église rococo, où sur la façade blanche, l'ombre des palmes fait de grands dessins noirs. Ici sont les grandes brasseries, les grandes fabriques de cotonnades mexicaines appartenant à ces Français originaires des Basses-Alpes qu'on nomme les Barcelonnettes. À l'aube, nous nous réveillons sur le plateau. Le soleil est déjà levé. Cette plaine sèche et brune, piquée d'aloès, me rappelle la Castille. Mais quelle lumière ! Le sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, pèlerinage national, citadelle rose, grillée de cyprès, nous annonce l'entrée à Mexico.
Esta escena del amor llena, esta escena del amor, esta escena del amor.
Cuando hay esta escena, es amor y amor se ordena, será de la gloria buena,
esta escena del amor.
Cette musique étonnante, pour célébrer l'apparition de la Vierge Noire de Guadalupe à l'Indien Juan Diego en 1531 à Mexico. Une œuvre de Thomas Pascual, né 60 ans plus tard, premier compositeur indien du Mexique dont des partitions nous soient parvenues. Il était maître de chapelle à Huehuetenango, qui se trouve aujourd'hui au Guatemala. Esta cena es amor, cette scène est un repas d'amour, par l'ensemble Vocal Arts de San Antonio au Texas. Belle musique aussi pour accueillir Paul Morand dans la capitale du Mexique en 1927. Du haut de l'acropole de Chapultepec qui domine la ville, écrit-il, on imagine difficilement le lac au milieu duquel les Aztèques ont bâti leur capitale Tenochtitlan, avec des îles flottantes, des jardins mobiles que l'on retrouve encore à Xochimilco. Dans le parc de Chapultepec, devant l'orchestre d'instruments à cordes, les cavaliers mexicains de la bonne société, des charros à cheval, sont rangés, botte à botte, sur le trottoir. Ils portent l'habit classique, le pantalon de daim collant, noir et argent, la veste courte à soutache, le célèbre feutre brodé d'or et au genou, le lasso. Couleur de raisin de Corinthe, les deux volcans, le Popocatépetl et l'Iztaccíhuatl, la montagne fumante et la femme endormie, dressent à plus de 5000 mètres deux cônes neigeux et suspendus. Il est 9 heures du matin et sous un ciel parfaitement tendu. Je me promène dans les rues, déjà bourrées à faire reculer les maisons. On se sent aussi léger qu'un ballon grâce à l'oxygène de l'altitude. le premier intermezzo de Manuel Ponce par Cyprien Katsaris. Puis Paul Morand longe ce qu'il appelle le grand opéra de Mexico, c'est-à-dire El Palacio de Bellas Artes, le palais des Beaux-Arts, qui est en construction, et la belle demeure dite des Azulejos. Toute recouverte, écrit-il, de faïence de Puebla, bleue à fond blanc. Dans une rue étroite, des amants échangent des serments à l'espagnol. La sérénade coûte fort cher ici, depuis que la police municipale perçoit un droit par audition. L'auto s'arrête devant le ministère de l'Éducation publique. J'entre dans la cour, grande comme celle de la Sorbonne, à triple galerie ouverte. Sur les murs, des fresques de Diego Rivera. Puis c'est 1h30 en auto, hors de Mexico. Fermant l'horizon de toutes parts, ce sont des montagnes violettes que nous nous préparons à aborder. La route soudain se dérobe, tandis que devant nous se dresse une haute pyramide grise décolorée par l'air de midi. La pyramide du soleil à Teotihuacan. Tout ici est à une échelle titanique. Ciel d'une infinie pureté, paysage de silence, dépouillé de lourdeur, de péché, de besoin, sans autre tâche que celle des deux volcans aux cônes de neige rose. Jorge Velasco à la tête de l'Orchestre Symphonique de Berlin dans un extrait du ballet La Fête du Feu qu'Antonio Gomez Anda composait en 1928. Nous montons sur une éminence qui domine Puebla. C'est toujours Paul Morand qui écrit. Terrain vague, sans valeur, raviné de lits de torrents. C'est d'ici que fut conduit en 1862 le premier assaut français qui aboutit à un échec. C'est pourquoi le 5 mai, anniversaire de ce succès mexicain, est la fête nationale. Pour la France de 1860, l'idée n'était pas si chimérique d'essayer de créer une grande monarchie d'influence française qui contiendrait au sud les jeunes et encore faibles États-Unis, comme le Canada les a contenus au nord. Nous avons déjeuné chez le père Magloire, dont le restaurant français date de cette époque héroïque. Puis Paul Morand remonte vers le nord. « J'aime le désert, le grand désert du centre américain. Aucune frontière ne l'arrêtera. Dans 30 heures, il deviendra le Sonora. Dans 40 heures, le désert d'Arizona. Dans 50 heures, le désert du Colorado. Mais toujours le même désert. » Zacatecas, San Luis Potosí, nous approchons de la frontière des États-Unis. Le Rio Grande, un peu plus loin de ses maigres eaux, va tracer la frontière toute fictive entre le Mexique et les États-Unis. Entrer aux États-Unis, c'est un privilège. Les indésirables refoulés sont là, et ils attendent leur heure. L'orchestre populaire enregistré à la fin des années 20 à El Paso, à la frontière mexicano-américaine. À Paris, Manuel Ponce apprend deux belles nouvelles musicales. On a fondé la première fabrique d'orgue dans la capitale Mexico et l'opéra Fidelio de Beethoven a enfin été créé en concert. Quant à lui en France, il continue à étudier l'influence du folklore sur les courants nationalistes européens, en particulier en Russie et en Europe centrale, fidèle à la tradition qu'il a lui-même initiée au Mexique. Et puis, il est heureux de retrouver son élève, le pianiste Antonio Gomez Anda, qui donne des récitals de piano en Europe et qui parvient à faire éditer en 1928 à Paris son ballet « Xiuhtzilquilo, la Fiesta del Fuego, la fête du feu » qui est créé en février au Nollendorf Theater de Berlin, la ville où il avait étudié en 1922. La chorégraphie est réalisée par la danseuse moderniste Ruth Allerland. L'œuvre est créée peu après à Mexico en concert sous la direction de Chavez. Chavez, qui s'était inspiré lui aussi de cette cérémonie aztèque du feu nouveau, qui cherchait à respecter l'ordre de l'univers en célébrant la création du soleil. Mais contrairement à Chavez, Gomez Anda ne cherche pas à composer une musique préhispanique imaginaire, mais bien un ballet d'inspiration romantique qui plaira beaucoup à Berlin. Le dernier mouvement de la Fête du Feu, le ballet d'Antonio Gomesanda, Jorge Velasco à la tête de l'Orchestre symphonique de Berlin. Dans la même veine romantique, c'est un autre élève de Chavez, José Rolón, qui effectue son deuxième séjour à Paris en 1927. José Rolón avait alors 52 ans. Il était de 6 ans, l'aîné de Ponce. Tous les deux suivent les cours de Paul Ducas et de Nadia Boulanger. C'est en mars 1928 que la première grande œuvre orchestrale de José Rolón est créée à Mexico. El Festín de los Enanos, le festin des nains. Il s'inspire d'une chanson populaire qui raconte l'irruption fantasque d'un groupe de nains plutôt effrayant dans un banquet. C'était, dit la chanson, les soldats grotesques de l'invasion française au XIXe siècle. Comme Gomesanda, Rolón tente d'unir la grande tradition romantique au nouveau courant nationaliste de la musique mexicaine. On écoute la fin de ce festin des nains, on songe un peu à l'apprenti sorcier de Paul Ducas. Le Festin des Nains de José Rolón, Luis Herrera de la Fuente à la tête de l'Orchestre Philharmonique de la Ville de Mexico. En 1928, le jeune guitariste et chanteur Guti Cárdenas part chercher fortune à New York en compagnie de son amie la chanteuse Nancy Torres. Tous deux habitent dans la 77e rue et se mêlent aux musiciens mexicains, colombiens et cubains de New York. On retrouve Guti sur la scène des grands théâtres de Los Angeles en 1930. C'est l'époque où les États-Unis partent à la chasse des grands talents mexicains et des plus grands chanteurs. Une fois engagés, ceux-ci prennent le train pour Veracruz, où ils embarquent pour la Floride, avant de continuer en chemin de fer jusqu'à New York. Guti Cárdenas chante ici un huapango, une musique de fête de sa région natale de Mérida sur la côte Caraïbe. Ce sera notre au revoir aujourd'hui.
Becerrero, becerrero, ¿dónde déjate los piales? ¿Dónde déjate los piales? Ay, ay, ay. En la puerta del chiquero, en la puerta del chiquero, ay, quedaron cabales. Ay, ay, ay.
Juana, 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 prende la vela, mira a ver quién anda por la cabecera, no será la vaca, no será mi suegra, no será la vaca, no será mi suegra. Juana, 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 prende la vela, mira a ver quién anda por la cabecera, no será la vaca, no será mi suegra, no será la vaca, no será mi suegra. Buscando un charquito, ando buscando un charquito para echar la remoja. Ay, ay, ay. Ando buscando un charquito, ando buscando un charquito para echar la remoja. Ay, ay, ay. Juana, 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 préndete la vela, mira a ver quién anda por la cabecera, no será la vaca, no será mi suegra, no será la vaca, no será mi suegra. Juana, 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 préndete la vela, mira a ver quién anda por la cabecera, no será la vaca, no será mi suegra, no será la vaca, no será mi suegra.
C'est avec Guti Cárdenas, en duo ici avec Conchita Utrera, qu'on se quitte aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission réalisée par Béatrice Trichet, à la prise de son Pierre Monteil, une émission disponible bien sûr en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.